Chapitre 10. Au moment où Jacques Collin sortait du cabinet de M. de Granville, le secrétaire général de la présidence du Conseil, un député, le comte des Lupeaux, se présentait, accompagné d'un petit vieillard souffreteux. Ce personnage, enveloppé d'une douillette puce, comme si l'hiver régnait encore, à cheveux poudrés, le visage blême et froid, marchait en goutteux, peu sûr de ses pieds grossis par des souliers en veau d'Orléans, appuyé sur une canne à pomme d'or, tête nue, son chapeau à la main, la boutonnière ornée d'une brochette à sept croix. « Qu'y a-t-il, mon cher Deslupeaux ? » demanda le procureur général. « Le prince m'envoie, » dit-il à l'oreille de M. de Granville. « Vous avez carte blanche pour retirer les lettres de mesdames de Sérisy et de Maufrigneuse et celles de mademoiselle Clotilde de Grandlieu. Vous pouvez vous entendre avec ce monsieur. » « Qui est-ce ? » demanda le procureur général à l'oreille de Deslupeaux. « Je n'ai pas de secret pour vous, mon cher procureur général. C'est le fameux Corentin. Sa Majesté vous fait dire de lui rapporter vous-même toutes les circonstances de cette affaire et les conditions du succès. « Rendez-moi le service, » répondit le procureur général à l'oreille de Deslupeaux, « d'aller dire au prince que tout est terminé, que je n'ai pas eu besoin de ce monsieur, » ajouta-t-il en désignant Corentin. « J'irai prendre les ordres de sa Majesté quant à la conclusion de l'affaire qui regardera le garde des Sceaux, car il y a deux grâces à donner. »« Vous avez sagement agi en allant de l'avant, » dit Deslupeaux en donnant une poignée de main au procureur général. « Le roi ne veut pas, à la veille de tenter une grande chose, voir la pairie et les grandes familles tympanisées, salies. Ce n'est plus un vil procès criminel, c'est une affaire d'État. Mais dites au prince que, lorsque vous êtes venu, tout était fini. Vraiment ? Je le crois. Vous serez alors garde des Sceaux quand le garde des Sceaux actuel sera chancelier, mon cher. Je n'ai pas d'ambition, répondit le procureur général. Deslupeaux sortit en riant. Priez le prince de solliciter du roi 10 minutes d'audience pour moi vers 2h30, ajouta M. de Granville en reconduisant le comte Deslupeaux. Et vous n'êtes pas ambitieux, dit Deslupeaux en jetant un fin regard à M. de Granville. Allons, vous avez deux enfants, vous voulez être fait au moins pair de France. Si M. le procureur général a les lettres, mon intervention devient inutile, fit observer Corentin en se trouvant seul avec M. de Granville, qui le regardait avec une curiosité très compréhensible. Un homme comme vous n'est jamais de trop dans une affaire si délicate, répondit le procureur général en voyant que Corentin avait tout compris ou tout entendu. Corentin salua par un petit signe de tête presque protecteur. « Connaissez-vous, monsieur, le personnage dont il s'agit ?»« Oui, monsieur le comte, c'est Jacques Collin, le chef de la Société des 10 000, le banquier des Trois Bagnes, un forçat qui, depuis 5 ans, a su se cacher sous la soutane de l'abbé Carlos Herrera. Comment a-t-il été chargé d'une mission du roi d'Espagne pour le feu roi ? Nous nous perdons tous à la recherche du vrai dans cette affaire. » J'attends une réponse de Madrid où j'ai envoyé des notes et un homme. Ce forçat a le secret de 2 rois. C'est un homme vigoureusement trempé. Nous n'avons que 2 parties à prendre, se l'attacher ou se défaire de lui, dit le procureur général. Nous avons eu la même idée et c'est un grand honneur pour moi, répliqua Corentin. Je suis forcé d'avoir tant d'idées et pour tant de monde que sur le nombre, je dois me rencontrer avec un homme d'esprit. » Ce fut débité si sèchement et d'un ton si glacé que le procureur général garda le silence et se mit à expédier quelques affaires pressantes. Lorsque Jacques Collin se montra dans la salle des pas perdus, on ne peut se figurer l'étonnement dont fut saisie mademoiselle Jacqueline Collin. Elle resta plantée sur ses 2 jambes, les mains sur ses hanches, car elle était costumée en marchande des 4 saisons. Quelque habituée qu'elle fût au tour de force de son neveu, celui-là dépassait tout. « Eh bien, si tu continues à me regarder comme un cabinet d'histoire naturelle, » dit Jacques Collin en prenant le bras de sa tante et l'emmenant hors de la salle des pas perdus, « ça nous fera prendre pour 2 curiosités, L'on nous arrêterait peut-être et nous perdrions du temps. » Et il descendit l'escalier de la galerie marchande qui mène rue de la Barillerie. « Où est Paccard ? » ?»« Il m'attend chez Larousse et se promène sur le quai aux fleurs. » »« Et Prudence ? » ?»« Elle est chez elle comme ma filleule. » »« Allons-y. Regarde si nous sommes suivis. » Larousse, quincaillère, établie quai aux fleurs, était la veuve d'un célèbre assassin, un 10 000. En 1819, Jacques Collin avait fidèlement remis 20 000 francs à cette fille de la part de son amant après l'exécution. Trompe-la-Mort connaissait seul l'intimité de cette jeune personne, alors maudite, avec son Fanandel. « Je suis le dame de ton homme », avait dit alors le pensionnaire de Madame Vauquer à la maudite qu'il avait fait venir au Jardin des Plantes. « Il a dû te parler de moi, ma petite. Quiconque me trahit meurt dans l'année. Quiconque m'est fidèle n'a jamais rien à redouter de moi. Je suis ami à mourir sans dire un mot qui compromette ceux à qui je veux du bien. Sois à moi comme une âme est au diable et tu en profiteras. J'ai promis que tu serais heureuse à ton pauvre Auguste qui voulait te mettre dans l'opulence. Et il s'est fait faucher à cause de toi. Ne pleure pas, écoute-moi. Personne au monde que moi ne sait que tu étais la maîtresse d'un forçat, d'un assassin, qu'on a terré samedi. Jamais je n'en dirai rien. Tu as 22 ans, tu es jolie, te voilà riche de 26 000 francs. Oublie Auguste, marie-toi, deviens une honnête femme si tu peux. En retour de cette tranquillité, je te demande de me servir, moi et ceux que je t'adresserai, mais sans hésiter. Jamais je ne te demanderai rien de compromettant, ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ton mari, si tu en as un, ni pour ta famille. Souvent, dans le métier que je fais, il me faut un lieu sûr pour causer, pour me cacher. J'ai besoin d'une femme discrète pour porter une lettre, se charger d'une commission. Tu seras une de mes boîtes à lettres, une de mes loges de portier, un de mes émissaires. Rien de plus, rien de moins. Tu es trop blonde, Auguste et moi, nous te nommions Larousse, tu garderas ce nom-là. Ma tante, la marchande au temple, avec qui je te lirai, sera la seule personne au monde à qui tu devras obéir, dis-lui tout ce qui t'arrivera. Elle te mariera, elle te sera très utile. Ce fut ainsi que se conclut un de ces pactes diaboliques dans le genre de celui qui, pendant si longtemps, lui avait lié Prudence Servien, que cet homme ne manquait jamais à cimenter, car il avait, comme le démon, la passion du recrutement. Jacqueline Collin avait marié Larousse au premier commis d'un riche quincailler hongrois vers 1821. Ce premier commis, ayant traité de la maison de commerce de son patron, se trouvait alors en voie de prospérité, père de 2 enfants et adjoint au maire de son quartier. Jamais Larousse, devenue Madame Prélat, n'avait eu le plus léger motif de plainte, ni contre Jacques Collin, ni contre sa tante. Mais, à chaque service demandé, Madame Prélat tremblait de tous ses membres. Aussi devint-elle pâle et blême en voyant entrer dans sa boutique ces 2 terribles personnages. « Nous avons à vous parler d'affaires, madame, » dit Jacques Collin. « Mon mari est là, » répondit-elle. « Eh bien, nous n'avons pas trop besoin de vous pour le moment. Je ne dérange jamais inutilement les gens. « Envoyez chercher un fiacre, ma petite, » dit Jacqueline Collin, « et dites à ma filleule de descendre, j'espère la placer comme femme de chambre chez une grande dame, et l'intendant de la maison veut l'emmener. » Paccard, qui ressemblait à un gendarme mis en bourgeois, causait en ce moment avec M. Prélat d'une importante fourniture de fil de fer pour un pont. Un commis alla chercher un fiacre, et quelques minutes après Europe, où, pour lui faire quitter le nom sous lequel elle avait servi Esther, Prudence Servien, Paccard, Jacques Collin et sa tante étaient, à la grande joie de Larousse, réunis dans un fiacre à qui Trompe-la-Mort donna l'ordre d'aller à la barrière d'Ivry. Prudence Servien et Paccard, tremblant devant le dab, ressemblaient à des âmes coupables en présence de Dieu. « Où sont les 750 000 francs ?» leur demanda le dab en plongeant sur eux un de ses regards fixes et clairs qui troublait si bien le sang de ces âmes damnées quand elles étaient en faute, qu'elles croyaient avoir autant d'épingles que de cheveux dans la tête. « Les 730 000 francs, répondit Jacqueline Collin à son neveu, sont en sûreté. Je les ai remis ce matin à la Romette dans un paquet cacheté. » « Si vous ne les aviez pas remis à Jacqueline, dit Trompe-la-Mort, vous alliez droit là, dit-il en montrant la place de grève devant laquelle le fiacre se trouvait. Prudence Servien fit, à la mode de son pays, un signe de croix, comme si elle avait vu tomber le tonnerre. « Je vous pardonne, dit le dab, à condition que vous ne commettrez plus de fautes semblables et que désormais vous serez pour moi ce que sont ces deux doigts de la main droite, dit-il en montrant l'index et le doigt du milieu. Car le pouce, c'est cette bonne largue-là. » Et il frappa sur l'épaule de sa tante. « Écoutez-moi. Désormais, toi, Paca, tu n'auras plus rien à craindre et tu peux suivre ton nez dans Pantin à ton aise. Je te permets d'épouser Prudence. » Paca prit la main de Jacques Collin et la baisa respectueusement. « Qu'aurais-je à faire ? » demanda-t-il. « Rien, et tu auras des rentes et des femmes, sans compter la tienne, car tu es très régence, mon vieux. Voilà ce que c'est que d'être trop bel homme. » Paca rougit de plaisir de recevoir ce railleur éloge de son sultan. « Toi, Prudence, reprit Jacques Collin, il te faut une carrière, un état, un avenir et rester à mon service. Écoute-moi bien. Il existe rue Sainte-Barbe une très bonne maison appartenant à cette Madame Saint-Estève à qui ma tante emprunte quelquefois son nom. C'est une bonne maison bien achalandée qui rapporte 15 000 ou 20 000 francs par an. La Saint-Estève fait tenir cet établissement par la Gonore, dit Jacqueline. La largue à ce pauvre la pouraille, dit Paccard. C'est là que j'ai filé avec Europe le jour de la mort de cette pauvre Madame Van Boxeck, notre maîtresse. « On jase donc quand je parle ?» dit Jacques Collin. Le plus profond silence régna dans le fiacre et Prudence ni Paca n'osèrent plus se regarder. « La maison est donc tenue par la Gonore, » reprit Jacques Collin. « Si tu y es allé te cacher avec Prudence, je vois, Paca, que tu as assez d'esprit pour esquinter la raille, » enfoncer la police. « Mais que tu n'es pas assez fin pour faire voir des couleurs à la Darbonne, » dit-il en caressant le menton de sa tante. « Je devine maintenant comment elle a pu te trouver. Ça se rencontre bien. Vous allez y retourner chez la Gonore. » Je reprends. Jacqueline va négocier avec Madame Nourrisson l'affaire de l'acquisition de son établissement de la rue Sainte-Barbe et tu pourras y faire fortune avec de la conduite, ma petite, » dit-il en regardant Prudence. « Abaisse à ton âge, c'est le fait d'une fille de France, » ajouta-t-il d'une voix mordante. Prudence sauta au cou de Trompe-la-Mort et l'embrassa, mais par un coup sec qui dénotait sa force extraordinaire, le dame la repoussa si vivement que, sans Paca, la fille allait se cogner la tête dans la vitre du fiacre et la casser. « À bas les pattes, je n'aime pas ces manières, » dit sèchement le dame, « c'est me manquer de respect. » « Il a raison, ma petite, » dit Paccard. « Vois-tu, c'est comme si le dame te donnait 100 000 francs. La boutique vaut cela. C'est sur le boulevard, en face du gymnase. Il y a la sortie du spectacle. »« Je ferai mieux, j'achèterai aussi la maison, » dit Trompe-la-Mort. « Et nous voilà riches à millions en 6 ans, » s'écria Paccard. Fatigué d'être interrompu, Trompe-la-Mort envoya dans le tibia de Paccard un coup de pied à le lui casser. Mais Paccard avait des nerfs en caoutchouc et des os en fer-blanc. « Suffit, dab, on se taira, » répondit-il. « Croyez-vous que je dis des sornettes ?» reprit Trompe-la-Mort, qui s'aperçut alors que Paccard avait bu quelques petits verres de trop. « Écoutez, il y a dans la cave de la maison 250 000 francs en or. » Le silence le plus profond régna de nouveau dans le fiacre. « Cet or est dans un massif très dur. » Il s'agit d'extraire cette somme et vous n'avez que 3 nuits pour y arriver. Jacqueline vous aidera. 100 000 francs serviront à payer l'établissement, 50 000 à l'achat de la maison et vous laisserez le reste. Où ? Dit Paccard. Dans la cave, répéta Prudence. Silence ! Dit Jacqueline. Oui, mais pour la transmission de cette charge, il faut l'agrément de la raille, la police. dit Paccard. On l'aura, dit sèchement Trompe-la-Mort. De quoi te mêles-tu ? Jacqueline regarda son neveu et fut frappée de l'altération de ce visage à travers le masque impassible sous lequel cet homme si fort cachait habituellement ses émotions. « Ma fille, dit Jacques Collin à Prudence Servien, ma tante va te remettre les 750 000 francs. »« 730, dit Paccard. « Eh bien, soit 730, reprit Jacques Collin. Cette nuit, il faut que tu viennes sous un prétexte quelconque à la maison de Madame Lucien. Tu monteras par la lucarne sur le toit. Tu descendras par la cheminée dans la chambre à coucher de ta feu maîtresse et tu placeras dans le matelas de son lit le paquet qu'elle avait fait. « Et pourquoi pas par la porte ?» dit Prudence Servien. « Imbécile, laissez-les y sont !» répliqua Jacques Collin. « L'inventaire se fera dans quelques jours et vous serez innocent du vol. »« Vive le dab !» s'écria Paccard. « Ah, quelle bonté !» « Cocher, arrêtez !» cria de sa voix puissante Jacques Collin. Le fiacre se trouvait devant la place de fiacre du Jardin des Plantes. « Détalez, mes enfants, dit Jacques Collin, et ne faites pas de sottises. Trouvez-vous ce soir sur le pont des Arts à 5 heures, et là ma tante vous dira s'il n'y a pas contre-ordre. Il faut tout prévoir, ajouta-t-il à voix basse à sa tante. Jacqueline vous expliquera demain, reprit-il, comment s'y prendre pour extraire sans danger l'or de la profonde. C'est une opération très délicate. » Prudence et Paccard sautèrent sur le pavé du roi, heureux comme des voleurs graciés. « Ah, quel brave homme que le dab !» dit Paccard. « Ce serait le roi des hommes s'il n'était pas si méprisant pour les femmes. »« Ah, il est bien aimable !» s'écria Paccard. « As-tu vu quel coup de pied il m'a donné ? Nous méritions d'être envoyés ad patres, car enfin, c'est nous qui l'avons mis dans l'embarras. »« Pourvu, dit la spirituelle et fine Prudence, qu'il ne nous fourre pas dans quelque crime pour nous envoyer au pré. Lui, s'il en avait la fantaisie, il nous le dirait, tu ne le connais pas. Quel joli sort il te fait ! Nous voilà bourgeois, quelle chance ! Oh, quand il vous aime, cet homme-là, il n'a pas son pareil pour la bonté. » « Maminette, dit Jacques Collin à sa tante, charge-toi de la gonore, il faut l'endormir. Elle sera dans 5 jours d'ici, arrêtée, et on trouvera dans sa chambre 150 000 francs d'or qui resteront d'une autre part dans l'assassinat des vieux Crottat, père et mère du notaire. « Elle en aura pour 5 ans de madelonnette, dit Jacqueline. « À peu près, répondit Jacques Collin. Donc c'est une raison pour la nourrisson de se défaire de sa maison. Elle ne peut pas la gérer elle-même et on ne trouve pas de gérante comme on veut. Donc tu pourras très bien arranger cette affaire. Nous aurons là un œil. » Mais ces opérations sont toutes trois subordonnées à la négociation que je viens d'entamer relativement à nos lettres. Ainsi, découte ta robe et donne-moi des échantillons des marchandises. Où se trouvent les 3 paquets ? Parbleu, chez Larousse ? Cocher, cria Jacques Collin, retournez au palais de justice et du train. J'ai promis de la célérité, voici une demi-heure d'absence et c'est trop. « Reste chez Larousse et donne les paquets cachetés au garçon de bureau que tu verras venir demander Madame de Saint-Estève. C'est le « de » qui sera le mot d'avis et il devra te dire « Madame, je viens de la part de Monsieur le procureur général pour ce que vous savez. » Stationne devant la porte de Larousse en regardant ce qui se passe sur le marché aux fleurs afin de ne pas exciter l'attention de Prélard. « Dès que tu auras lâché les lettres, tu peux faire agir Paccard et Prudence. »« Je te devine, » dit Jacqueline, « tu veux remplacer Bibi Lupin. La mort de ce garçon t'a tourné la cervelle. » Et Théodore, à qui l'on allait couper les cheveux pour le faucher à 4 heures ce soir, s'écria Jacques Collin. « Enfin, c'est une idée. Nous finirons, honnêtes gens et bourgeois, dans une belle propriété, sous un beau climat en Touraine. » Que pouvais-je devenir ? Lucien a emporté mon âme, toute ma vie heureuse. Je me vois encore 30 ans à m'ennuyer et je n'ai plus de cœur. Au lieu d'être le dab du bagne, je serai le Figaro de la justice et je vengerai Lucien. Ce n'est que dans la peau de la raille, police, que je puis en sûreté démolir Corentin. Ce sera vivre encore que d'avoir à manger un homme. Les états qu'on fait dans le monde ne sont que des apparences. La réalité, c'est l'idée, ajouta-t-il en se frappant le front. Qu'as-tu maintenant dans notre trésor ?
Rien, dit la tante épouvantée de l'accent et des manières de son neveu. Je t'ai tout donné pour ton petit. La Romette n'a pas plus de 20 000 francs pour son commerce. J'ai tout pris à Madame Nourrisson, elle avait environ 60 000 francs à elle. Ah, nous sommes dans des draps qui ne sont pas blanchis depuis un an. Le petit a dévoré les fades des fanandelles, notre trésor et tout ce que possédait la Nourrisson.
Ça faisait
560 000.
Nous en avons 150 en or que par carré prudence nous devrons. Je vais te dire où en prendre 200 autres. Le reste viendra de la succession d'Esther. Il faut récompenser la Nourrisson. Avec Théodore, Paccard, Prudence, la Nourrisson et toi, j'aurai bientôt formé le bataillon sacré qu'il me faut. Écoute, nous approchons.
Voilà les trois lettres, dit Jacqueline, qui venait de donner le dernier coup de ciseau à la doublure de sa robe.
Bien, répondit Jacques Collin en recevant les trois précieux autographes, trois papiers vélins encore parfumés. Théodore a fait le coup de Nanterre.
Ah, c'est lui ?
Tais-toi, le temps est précieux. Il a voulu donner la béquée à un petit oiseau de Corse nommé Ginetta. Tu vas employer la Nourrisson à la trouver, je te ferai passer les renseignements nécessaires par une lettre que Gaud te remettra. Tu viendras au guichet de la conciergerie dans 2 heures d'ici. Il s'agit de lâcher cette petite fille chez une blanchisseuse, la sœur à Godet, et qu'elle s'y impatronise. Godet et Ruffa sont des complices à la pouraille dans le vol et l'assassinat commis chez les Crottat. Les 750 000 francs sont intacts, un tiers dans la cave de la Gonore, c'est la part de la pouraille. Le second tiers dans la chambre à la Gonore, c'est celle de Ruffard. Le troisième est caché chez la sœur à Godet. Nous commencerons par prendre 150 000 francs sur le fade de la pouraille, puis 100 sur celui de Godet et 100 sur celui de Ruffard. Une fois Ruffard et Godet serrés, c'est eux qui auront mis à part ce qui manquera à leur fade. Je leur ferai à croire, à Godet, que nous avons mis 100 000 francs de côté pour lui, et à Ruffard et à la pouraille, que la Gonore leur a sauvé cela. Prudence et Paccard vont travailler chez la Gonore. Toi et Ginetta, qui me paraît être une fine mouche, vous manœuvrerez chez la sœur à Godet. Pour mon début dans le comique, je fais retrouver à la cigogne 400 000 francs du vol Crottat et les coupables. J'ai l'air d'éclaircir l'assassinat d'un Nanterre. Nous retrouvons notre auberge et nous sommes au cœur de la raille. Nous étions le gibier et nous devenons les chasseurs, voilà tout. Donne 3 francs au cocher. Le fiacre était au palais. Jacqueline, stupéfaite, paya. Trompe-la-Mort monta l'escalier pour aller chez le procureur général.